Chapitre 5.
On a son nom et une adresse.
Le sergent Peterson venait de passer une tête dans le bureau de Shelley où elle s'était retirée avec Quincy et Rainey. Ils avaient tous une tasse de café à la main, même si Quincy savait d'expérience que celle de Shelley contenait en réalité une tisane à la camomille qu'elle faisait passer en douce. « Mais je n'ai pas encore donné la conférence de presse », s'étonna-t-elle. « Inutile. J'ai envoyé la photo par Internet à quelques conseillers de probation pour mineurs. » Peterson lança un regard à Quincy. « Vous aviez laissé entendre que le gamin n'en était pas à son premier coup. Les faits vous donnent raison. Ali Sanchez m'a répondu dans la minute. Il fait partie des jeunes dont elle suit le dossier. »« Est-ce qu'elle l'a convoqué ?» demanda Quincy avec inquiétude. Il s'était levé et Shelley et Rainey de même. Négatif. Je lui ai dit de ne pas entrer en contact avec lui dans l'immédiat. J'avais peur qu'il sente de mauvaises ondes en entrant dans son bureau. Il a déjà dézingué deux personnes, je ne voulais pas mettre Ali dans une telle situation. Ses antécédents ? Demanda Shelley. Essentiellement des infractions mineures. Violation de propriété privée, vandalisme. Mais la liste est longue pour un jeune de 17 ans. Il n'a pas chômé. D'après Ali, il vit actuellement chez Sandra et Franck Duval. Lui est professeur au lycée de Bakersville, elle femme au foyer. Leur fils étant parti à l'université, ils ont accepté d'accueillir le gamin l'an dernier. Et je vous le donne en mille, Franck Duval possède 6 armes à feu déclarées, y compris un 9 mm. « Vous avez appelé la famille ?» demanda Shelley. « Le fixe. Ça répond pas. »« D'accord. J'informe les unités spéciales du SWAT. Dès qu'on a le feu vert, on fonce. »«
Mieux vaudrait que le suspect ne se sente pas acculé, » recommanda Quincy.
« Je leur rappellerai de prendre leur voix la plus suave. Un autre conseil, monsieur le profileur ?»«
La presse vous attend toujours dehors. »«
Et merde !»«
Pas grave, » plaisanta Rainey. « Si les forces d'intervention font chou blanc chez les Duval, elles pourront toujours régler leur compte aux journalistes à votre place. »
L'adresse des Duval était celle d'une modeste maison de style ranch, à la façade gris clair, nettement à l'écart de la route. D'un côté, un bosquet de gigantesques sapins de Douglas. De l'autre, une épaisse haie de rhododendron. Le porche était agrémenté de fleurs en pot d'un rouge pimpant, et à côté de la porte, on avait suspendu un écriteau « Home Sweet Home ». Cette famille d'accueil avait à cœur de prendre soin de son logis. Le tireur présumé leur en savait-il gré ? Se demanda Quincy. Ou bien était-il surtout enchanté d'avoir été placé dans une maison où se trouvaient 6 armes à feu ? Quincy et Rainey patientèrent avec Shelley pendant qu'une demi-douzaine de commandos se répartissaient aux quatre coins de la propriété et procédaient à une approche. Shelley prit son portable, composa une dernière fois le numéro de la maison. Tout semblait paisible. Pas de voiture dans l'allée, pas de membre de la famille visible derrière les carreaux. Et pourtant, Quincy se sentait fébrile, sur les nerfs. Trop de café. Il lança un regard à Rainey et vit qu'elle était dans le même état. Elle consulta sa montre. « Piscine », lui dit-elle du bout des lèvres. « Bien sûr, allez chercher Charla. Le genre d'impératif qu'il aurait dû apprendre à ne pas oublier. » Curieux comme au bout de 3 ans, les exigences de la vie de famille lui demandaient encore un effort d'attention. Alors qu'à l'inverse, ce qu'ils étaient en train de faire, resserrer les mailles du filet autour d'un meurtrier présumé, restait aussi naturel que de pédaler sur un vélo. Friture sur la radio. Shelley répondit « Team Leader, j'écoute. »
« Team Alpha en position pour intervention. »
« Feu vert, Team Alpha. Go !» Alors les commandos fondirent sur la maison. À l'avant, à l'arrière. Ils frappèrent violemment aux portes et une demi-seconde plus tard, comme personne ne répondait, l'un d'eux, bien plié sur ses jambes, enfonça la porte d'entrée à coups de bélier. Armés jusqu'aux dents et protégés de pied en cap, ils investirent les lieux. Quincy retenait son souffle. Il tendait l'oreille, guettant des éclats de voix, des cris, des coups de feu. Rien. Mais rien de rien. Il se tourna vers Rainey juste au moment où la radio de Shelley se manifestait à nouveau.
De Team Leader à la base.
Transmettez, Team Leader.
Nous avons sécurisé les lieux.
Aucun signe du suspect ?
Négatif.
De la famille ?
Mieux vaut que vous voyiez ça par vous-même.
Quincy n'eut pas besoin d'en entendre davantage pour savoir quel sort avait été réservé à Franck et Sandra Duval. Franck Duval n'avait même pas eu le temps de sortir de son lit. Son corps reposait sur le dos,
Un drap léger remonté sur son torse nu, une balle dans le front. Quincy vit la brûlure autour de l'orifice, là où le canon de l'arme avait appuyé sur la peau. Un tir à bout touchant. Qui avait certainement réveillé Sandra Duval, endormie à côté de son mari. Repoussant le drap, elle avait eu le temps de poser les deux pieds par terre avant de prendre 3 balles dans le dos. Quincy ne put s'empêcher de remarquer que c'était un beau tir groupé, comme dans les manuels. L'assassin avait tiré pour tuer. Sandra était tombée à plat ventre à côté du lit, les bras en croix, sa fine chemise de nuit bouchonnée autour de la taille. Au bout du couloir, 2 autres chambres. La première était de taille réduite, à peine la place pour un lit simple et un modeste bureau. La fenêtre était ouverte dans l'espoir de laisser entrer un peu d'air frais, même si c'était illusoire. Comme dans la chambre des Duval, le ventilateur qui ronflait dans un coin de la pièce brassait surtout de l'air chaud. La couette était repoussée au bout du lit, en ce mois d'août trop étouffant pour dormir avec une couverture. Ici, pas de cadavre. Pas grand-chose, à vrai dire. Le lit, le ventilateur, une lampe. Une montagne de vêtements sales dans le coin opposé. Sur le bureau, une pile de livres de poche et un chargeur d'appareil électrique. Quincy devina tout seul qu'il s'agissait de la chambre de l'adolescent placé, leur suspect. Et cela lui fit de la peine de savoir que Charla aurait reconnu cette chambre. Son caractère impersonnel. Parce que quand on vit en famille d'accueil, les objets que l'on possède sont des récompenses qui se méritent. Et que, vu le casier judiciaire du garçon, il avait sans doute passé plus de temps à perdre des privilèges qu'à en gagner. Dernière chambre au bout du couloir. Quincy se sentit faiblir. Un instant rare qui en disait long sur cet homme qui tentait pour la 2e fois l'aventure de la paternité. Rainy avait carrément préféré ne pas mettre les pieds dans la maison. « Je connais mes limites », avait-elle expliqué. La porte était entrouverte, certainement pour créer un courant d'air. Quincy s'approcha seul, le couloir étant trop étroit, les chambres trop proches les unes des autres pour autoriser la présence de plusieurs intervenants à la fois. Shelley elle-même n'avait pas encore fait le tour de la maison. Consciente de l'exiguïté des lieux et soucieuse de limiter la contamination de la scène de crime, elle avait demandé à Quincy de passer le premier. Il était le plus qualifié d'entre eux. Roy Peterson leur avait indiqué que les Duval avaient un fils en âge de faire des études. On était en août. Il y avait donc de fortes chances qu'il soit rentré dans sa famille pour les vacances. D'une main gantée, Quincy poussa la porte. Petite pièce, là encore. Un lit simple, impeccablement fait. Le dessus de lit marron et bleu bien tiré. Et pas de cadavre à l'horizon. Pas de sang, pas de bourdonnement de mouche, pas d'odeur fétide de mort. Juste une chambre. Sous la fenêtre, un bureau débarrassé de tout objet. Sur la table de nuit, un réveil, une vieille lampe en laiton et pas grand-chose d'autre. La seule touche personnelle était apportée par 2 posters punaisés au mur de lambris sombre. Des basketteurs. Les Portland Trail Blazers devina Quincy à leur tenue, même s'ils ne suivaient pas le championnat. Il ressortit de la chambre vide en soupirant. Revenant sur ses pas, il retourna dans le modeste séjour où Shelley, les mains sur les hanches, le visage perlé de sueur dans la chaleur suffocante, l'attendait à côté d'un grand canapé gris recouvert d'un jeté. Elle l'interrogea du regard. 2 morts. Les Duval. Tous les 2 tués par balle dans leur chambre. 1 balle dans la tête pour lui. 3 balles dans le dos pour elle, indiqua Quincy. La 3e chambre semble inoccupée. Le fils n'est pas rentré pour les vacances. Henry Duval, précisa Shelley. Je viens d'apprendre qu'il fait des études d'ingénieur à l'Université d'Oregon et qu'il suit actuellement une formation en alternance dans une boîte high-tech de Beaverton. Donc en effet, il n'est pas rentré cet été.
Vous lui avez déjà parlé ?
S'étonna Quincy. Il semblait un peu prématuré de contacter la famille des victimes au sujet d'un crime sur lequel on ne possédait encore aucun détail.
Non, je viens seulement d'échanger avec Alice Sanchez, la conseillère de probation. C'est elle qui avait personnellement sollicité les Duval pour qu'ils accueillent son protégé. Inutile de vous dire qu'elle est un peu secouée par les événements de la matinée. Des traces de notre suspect ?
Le lit est défait comme s'il y avait dormi. Et le ventilateur tourne toujours. À part ça, c'est une chambre plus fonctionnelle que douillette.
11 mois qu'il vit ici et il n'est toujours pas prêt à défaire ses valises.
Ou alors il n'en a pas. Quincy passa dans la cuisine, observa autour de lui.
trois grandes assiettes soigneusement mises à sécher sur l'égouttoir à côté de l'évier. Pareil pour les verres et les couverts. Puis il jeta un œil dans le réfrigérateur qui contenait de solides provisions de lait, d'œufs et de jus d'orange, ainsi qu'une collection hétéroclite de Tupperware. Tout indique qu'ils ont dîné hier soir, fait la vaisselle. Les meurtres ont très certainement été commis en tout début de matinée, confirma Shelley. S'ils remontaient à hier soir, aussi incroyable que ça puisse paraître, l'odeur serait encore plus insoutenable. Moyen de transport ? Bonne question. Shelley prit sa radio, appela le central. Les véhicules au nom de Franck et Sandra Duval, demanda-t-elle en indiquant l'adresse des intéressés. Il ne fallut qu'une minute à son interlocuteur pour lui fournir la réponse. Deux voitures. Une Honda gris métallisée vieille de 10 ans et un pick-up Chevrolet bleu vieux de 15. La Honda est dans le garage, indiqua Shelley qui avait fait le tour des extérieurs. Mais aucune trace du pick-up. Je parie que Duval le garait dans l'allée. Shelley hocha la tête. Un coffre-fort pour les armes ? Poursuivit Quincy. Dans la chambre, j'aurais dit. Rien vu de tel. Dans le garage ? Rien non plus. Ils se séparèrent pour mener les recherches. Ce fut Shelley qui décrocha le gros lot. Dans la cave où, par bonheur, il faisait plus frais qu'au rez-de-chaussée. Quincy la rejoignit dans la pénombre. Un plafonnier éclairait une vieille table de ping-pong, un congélateur-coffre, et à côté d'une pile de carton, une armoire forte assez grande pour des fusils. La porte en était entr'ouverte. D'un doigt ganté, Shelley l'ouvrit lentement. Quelques cartouches qui se battaient en duel et rien d'autre. Quincy, combien d'armes possédait Franck Duval déjà ? 6. Quincy contempla l'armoire vide. Et un copieux stock de munitions pour aller avec, je parie. Autrement dit, j'ai affaire à un suspect de 17 ans à la tête d'un arsenal, en possession d'une voiture et qui a peut-être déjà 4 meurtres à son actif. Qu'est-ce qui se passe, Quincy ? Je veux dire, un jeune déséquilibré qui tue sa famille d'accueil, c'est une chose, mais pourquoi les deux victimes de la station-service ? Qu'est-ce qu'il cherche ? Il fait une descente dans l'armoire, abat les Duval, dit Quincy d'une voix pensive. C'est l'impression que ça donne. Ensuite, il prend la voiture et... Il décide de ne pas en rester là ? Meurtre à la chaîne. Quincy se tourna vers le shérif, s'assura qu'il avait toute son attention. Notre suspect est en route pour commettre une tuerie. Ses équipés criminels commencent généralement par un meurtre dans l'entourage. On tue sa femme, son patron, un parent. Mais au lieu de signer la fin de la crise avec un passage à l'acte, le tireur connaît un épisode psychotique et décide de faire un carnage. La première victime a été tuée pour des raisons personnelles. Mais à partir de là, l'individu exécutera quiconque aura le malheur de croiser sa route. Vous avez un criminel extrêmement dangereux dans la nature, shérif Hopkins. Et il tuera encore. Sous sa pellicule de sueur, le visage de Shelley avait pâli, ce qui faisait ressortir les cicatrices de son cou. « Je vois », dit-elle crispée. Puis elle répéta. « Je vois. Il va falloir monter une cellule opérationnelle, lancer un avis de recherche pour retrouver la Chevrolet, mobiliser les unités spéciales, les renforts de la police d'État, tout ce qui porte un insigne, en fait. Tous les lieux publics à proximité de la station-service devraient prendre des mesures de confinement. Les bibliothèques, les centres sociaux, les crèches, etc. » Les piscines, pensa Quincy, soulagé de savoir que celle du YMCA se trouvait à l'autre bout de la ville. Bien reçu. Il nous faut des renseignements sur ce garçon, tout ce qu'il y a à savoir sur lui. Amis, fréquentations, activités, centres d'intérêt. Comment réagit-il en situation de stress ? Est-il bon tireur ? D'accord. Le temps joue contre nous. Plus la situation se prolonge, plus notre homme sera dangereux, devina Shelley. Sans compter la réaction de la population qui, dans la région, est souvent elle-même à la tête d'un arsenal. Shelley soupira, puis elle hocha la tête et rassembla une nouvelle fois son courage. C'était un bon shérif, Quincy le savait, elle tenait bien la pression. Mais comme la plupart de ses collègues, elle passait plus de temps à lutter contre la drogue et les violences domestiques que contre les crimes de cette nature. Les 24 heures à venir allaient tous les mettre à rude épreuve. Shelley décrocha une nouvelle fois sa radio, contacta le central. « Il me faut un avis de recherche. Un jeune homme de 17 ans. Cheveux bruns, yeux marrons. Portait un sweat à capuche noire la dernière fois qu'il a été vu. Se déplace sans doute au volant d'un pick-up Chevrolet bleu immatriculé Shelly déclina le numéro.
Probablement en possession de plusieurs armes, ne s'en approcher qu'avec une extrême prudence. Alerter toutes les villes voisines et la police d'État. Ajouter les gardes forestiers, les services de la pêche et de la chasse, les campings. Vous connaissez le topo. Le suspect s'appelle Telly Ray Nash. Quincy se figea, se sentit blêmir.
Pardon ?
Telly Ray Nash, répéta Shelly.
Mais Quincy n'écoutait plus. Il remontait les escaliers 4 à 4 pour retrouver Rainy.